Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RDIWA 107.5 FM. Vous pourrez réécouter cette émission, cette interview et beaucoup d'autres en podcast à vie sur rdiwa.fr. Alors, aujourd'hui, je reçois Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Pour parler de mandala. Donc, on va parler de tes ateliers mandala aux agités du local et aussi de l'exposition qui aura bientôt lieu au Café des Lys. Et en filigrane, bien sûr, nous allons aborder ce que représente cette forme qu'est le mandala et même cette pratique. Alors, j'ai lu que le mot mandala en sanskrit signifiait cercle, monde. Il nous parle d'harmonie, de cohérence, d'unité, de lien. Et je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que cette pratique représente ?
Je trouve que ça, on pourrait dire que le mandala fait un lien effectivement par rapport à tout. En fait, on le retrouve un peu partout, le mandala. On le retrouve dans la nature, on le retrouve dans les spiritualités, on le retrouve dans beaucoup de choses, à plein d'échelles différentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une chose qui est partout, le mandala. Mmh. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des spiritualités qui le représentent ou qui l'utilisent beaucoup. Donc là, on pense au mandala tibétain qui est quelque chose auquel on a l'habitude de faire référence. Mais en fait, le mandala, c'est aussi partout. C'est dans une poire coupée en deux, dans le sens transversal. C'est aussi le yin et le yang, c'est aussi le calendrier aztèque, une spiritualité dont on ne sait pas grand-chose. Et donc voilà, ça se retrouve un peu partout.
Ouais, c'est ça. En fait, ça fait monde.
Ça lie un peu tout. On peut regarder un mandala dans une pomme de pin. On peut juste en regardant des petites fleurs s'apercevoir qu'elles sont très symétriques, qu'elles ont 5 pétales et tout ce qui est symétrique. Donc là, on parle de symétrie centrale. Tout ce qui est fait à partir d'une, avec une symétrie centrale, donc peut s'inscrire dans un cercle. Donc est un mandala.
Nos yeux sont des mandalas.
Ouais,
on peut dire qu'on a deux mandalas.
Pour voir le monde.
Ouais. Pour voir le monde. Ouais. Donc c'est très touchant aussi cette pratique-là, cette forme. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé ? Qu'est-ce qui t'a amené à créer des mandalas ?
C'est une sorte d'écoute en fait. Je crois que j'ai eu une période de ma vie où j'étais bien à l'écoute de ce qui se passait, de ce qui venait. J'avais du temps pour essayer des choses. Et puis pour explorer. Et je suis allé dans une librairie, j'ai trouvé un petit livre j'ai regardé les mandalas qu'il y avait à l'intérieur, j'ai trouvé ça très très beau. Et puis il y avait une petite méthode pour tracer soi-même ces mandalas et donc j'ai démarré comme ça. Un processus qui a pris beaucoup de temps, qui est celui d'explorer le tracé, parce qu'en fin de compte, moi ce qui me passionne c'est le tracé. Et donc ça a démarré par le mandala et c'est ensuite venu jusqu'à la charpente puisque je suis charpentier et donc c'est tout un processus.
Ah oui, ce qui t'a intéressé en fait au tout début, c'était vraiment la structure en fait.
C'était la structure et puis c'est aussi parce que je crois que dans le mandala il y a quelque chose de magique. Les formes étoilées, il y a quelque chose de magique. Quand j'étais adolescent, je jouais aux jeux de rôle et c'était des univers de magiciens, de sorciers. Et puis on traçait des grands cercles par terre pour invoquer des êtres ou pour se protéger. Et donc il y a tout cet aspect un peu magique qui m'attire depuis longtemps, qui fait que c'est jamais anodin pour moi de tracer une étoile. Enfin, qu'il y a quelque chose qui va forcément s'en dégager. C'est vraiment venu de là, le mandala. Cette familiarité que je peux avoir avec les formes géométriques, avec les étoiles.
Oui, d'ailleurs, il y a une phrase de William Blake que j'ai retrouvée dans un livre sur les mandalas qui me fait penser à ce que tu viens de dire. L'homme s'est emprisonné lui-même, si bien qu'il voit tout par les fissures étroites de sa caverne. Et qu'en fait, c'est... Mon expérience par rapport au mandala, j'ai été participante à quelques-uns de tes ateliers, c'est que On prépare des structures qui nous permettent d'être d'autant plus libres pour jouer ensuite avec les couleurs, les nuances, les formes et puis les matières. Et cette expérience me renvoie à la vie où on peut exprimer sa singularité quand on a trouvé le sens profond qu'il y avait à ce qu'on fait. Et par rapport à cette structure dont tu parlais et ce sens un peu magique, il y a comme une sorte de lien entre la base, la terre, et posée vraiment dans la matière, pour d'autant plus pouvoir se relier à quelque chose qui nous dépasse, mais pour autant qui fait partie quand même de notre vie.
Oui. Il y a certaines personnes qui pensent que... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du nombre d'or.
Oui.
Et bon, il y a certains... Donc, il y a eu des courants dans la peinture qui ne juraient que par ça et qui pensaient que tout était parfait si le nombre d'or était absolument respecté, qu'il y avait des proportions très, très exactes dans les couleurs, dans les formes. Et puis, suite à ces courants qui ont donné des peintures très détaillées, très réalistes, un peu emprisonnantes, il y a eu ensuite un courant qui a tout envoyé balader et qui a dit non, il y en a marre du nombre d'or, fichez-nous la paix. Mais il y a quelque temps, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui disait que en fait, le nombre d'or n'existait pas dans la nature et que c'était vraiment une invention de l'humain. Et moi, je pense que... En fait, donc cette histoire du nombre d'or, ça décrit quelque chose d'harmonieux pour moi. Je pense que dans la nature, toute cette harmonie, on peut la décrire grâce au nombre d'or. Je pense que c'est lié. Et si on regarde, par exemple, une petite touffe de myosotis en se baladant sur le plateau, dans le Vercors, on voit bien que, en fait, il y a quelque chose de très régulier qui régit ces toutes petites fleurs qui ont 5 pétales et qui sont toutes totalement, enfin vraiment différentes, qu'il n'y en a aucune qui est pareille, mais cependant il y a quand même ce truc de pentagone ou de pentagramme qui est très fort et qui dirige un peu l'épanouissement de la plante. Donc je pense que c'est dans la nature, il y a ces proportions, il y a ces symétries, il y a ces géométries qui sont très présentes dans une pomme de pin, dans un ananas, partout. Et donc, de dessiner un mandala et de partir d'une étoile au départ, c'est pour le coup se servir de ce que nous propose la nature, voilà, pour s'ancrer dans quelque chose d'harmonieux et de symétrique. Et puis ensuite, effectivement, comme tu disais, partir dans l'exploration de soi-même et puis se libérer de cette géométrie qui peut être un peu normative et même réductrice, et puis s'exprimer librement, explorer, aller dans le passé, dans le futur, dans le présent, enfin, ouais, dans plein de directions possibles, et puis dans l'humeur du moment surtout.
Oui. Et oui, parce que tu proposes des ateliers aux agités du local. Est-ce que quelqu'un qui viendrait et qui n'aurait jamais vraiment regardé un mandala, qui ne sait pas dessiner, enfin, comment tu abordes les bases pour dessiner un mandala? Est-ce qu'il y a vraiment des principes fondamentaux, voilà, une démarche à suivre?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de démarche, parce que moi, je me sers de la symétrie centrale pour... construire un mandala, mais on peut très bien le faire sans symétrie. Un mandala, ça peut très bien être quelque chose juste de rond et de central ou de carré, mais quelque chose qui va être un peu régulier, plus ou moins. Ça dépend, ça peut être finalement complètement décentré, tordu. Ça peut aussi être ça, pourvu qu'il y ait un centre, finalement. Mais effectivement... je trouve ça. Moi, ce que je propose en fait dans l'atelier, c'est de se servir de la symétrie pour démarrer le mandala. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de savoir dessiner pour se lancer dans un mandala. Et c'est aussi ça qui a fait que moi, je me suis lancé. Enfin, j'en ai beaucoup fait parce que je suis pas un dessinateur au départ du tout. Et enfin, un petit peu, mais sans plus. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que par le biais de la géométrie et ensuite par le biais du décalcage, on peut lâcher un peu sa plume ou enfin son crayon et puis s'éclater. Voilà, l'idée, c'est que les gens viennent et puis je les aide à construire une étoile. Comme ça, ils obtiennent quelque chose qui est agréable à regarder. Oui. En copiant la nature, finalement. Et puis, à partir de là, je les pousse à personnaliser la géométrie et à sortir des lignes.
Et voilà. Oui. Enfin, c'est l'harmonie qui est la base de la beauté, du coup. Et c'est vrai que c'est aussi C'est aussi ce qui donne, de toute façon, ça va avoir un rendu satisfaisant.
Satisfaisant, c'est ça. Ouais. Et c'est important d'être satisfait, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le mandala, cette idée d'être satisfait et d'être content de sa production. Et même si ça ne doit pas être un but en soi, c'est vrai que c'est assez important.
Et oui, parce que du coup, il y a plein de façons aussi différentes d'aborder les mandalas. Et du coup, des personnes qui viennent à tes ateliers, juste pour être aussi déjà dans un cadre chaleureux, discuter, se faire plaisir avec les couleurs. Et puis aussi, il peut y avoir peut-être des personnes qui recherchent de se centrer, de se sentir reliées.
C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent parce que ça leur fait un moment de pause. Enfin, j'ai notamment une amie, Béatrice, qui vient souvent et qui, pour elle, ce moment où elle fait le mandala, ça lui permet effectivement de se retirer un peu de son activité intense qu'elle a en semaine. Et puis elle vient et puis on prend un moment pour juste colorier, tracer, décalquer. On se relie vraiment à des gestes simples de l'enfance, en fait, comme quand on est petit et qu'on fait des dessins, qu'on crayonne, quoi. Et là, on a vraiment des sensations comme ça qui reviennent. Et puis, on peut laisser aller ses pensées, discuter tranquillement, boire une tisane, un thé. Ouais. C'est un bon exercice pour être là, pour participer au coloriage commun. C'est ça qui est intéressant, finalement, dans l'atelier mandala, c'est de partager l'énergie de travail. C'est ça mon intention, en tout cas. À travers cet atelier, partager l'énergie de travail. Voilà, c'est très agréable.
Et oui, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a cette pratique du mandala qui permet d'être complètement donné à ce moment-là, à cette pratique-là, à ce dessin. Puis il y a aussi vraiment, en effet, toute l'énergie en plus du groupe, où le groupe même presque forme aussi un mandala autour de la pratique qui est centrale.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est... Et encore une fois, j'y ai participé et c'est vrai que ça fait du bien. Je crois que c'est un tout. C'est pas forcément juste d'être avec les gens ou juste la pratique. C'est vraiment qu'on peut être relié et puis quelque chose qui doit nous dépasser parce que, comme tu le disais, ça reprend les formes de la nature. Ouais. Et qu'en fait, inconsciemment, on a certainement besoin de ça et d'y être vraiment au plus proche. Et par le mandala, en fait, on est au plus proche de ce qui nous fait, puisqu'on fait partie de la nature. Je vois ça vraiment aussi comme quelque chose de spirituel. Alors attention avec ce mot. Moi, c'est vraiment juste dans le sens du rapport de soi au monde. Voilà, soi dans le monde. Je réduirais vraiment ce mot-là à ça.
Disons que, en tout cas, le mandala, il est très présent dans les spiritualités, que ça soit une rosace de cathédrale d'église, ou le yin et le yang, ou les mandalas tibétains. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui élève un peu.
Mais toi, parlons aussi de quelques années de pratique, je crois. Ça fait quelques années que tu dessines.
Oui, ça fait quelques années que je fais des mandalas maintenant, mais je n'en ai jamais fait régulièrement. C'est toujours venu de temps en temps. Voilà. J'avais des occasions, je faisais un mandala, je faisais un jeûne, je faisais un mandala, j'avais du temps pour moi, j'en faisais un. Puis ensuite, pendant plusieurs mois, un ou deux ans, je n'en faisais plus. Et puis ça, c'est revenu comme ça, à intervalles irréguliers. Mon intention en proposant les ateliers à Di, c'était justement d'en faire une activité régulière.
Oui, voilà. Permet aussi de...
Ouais.
De cadrer ce temps-là.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour ça, je suis vraiment content parce que on a démarré au mois de septembre donc de l'année dernière, ou non, du septembre 2015. Et depuis cette date, je suis avec ma table à dessin, mes mandalas, et je travaille régulièrement. Et donc ça me fait, ça me fait du bien.
Oui. Et puis tu fais alors des mandalas donc sur papier, mais je sais aussi que tu en fais en land art et aussi en 3D. Et je voulais savoir quels autres aspects, si d'autres aspects il y a, tu trouves dans ces pratiques différentes. Et voilà, qu'est-ce que ça t'apporte d'autre ?
Alors pour ce qui est des mandalas dans la nature, donc le land art, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour moi au niveau du tracé, parce que ça permet de faire les choses en très grand, et ça c'est vraiment agréable de bosser sur des grandes distances, d'être avec sa petite cordelette, ses petits piquets, et puis de servir de ce qu'on a pour faire quelque chose de géométrique. On rejoint un petit peu les tracés à l'ancienne, en charpente là, ça me fait penser à un livre d'Henri Vincenot qui s'appelle Les étoiles de Compostelle, qui parle de l'initiation d'un jeune gars sur les chemins de l'apprentissage de la charpente. Et oui, quand on est dans la nature, c'est vraiment intéressant pour ça de se retrouver avec feuilles comme feuilles, le gazon ou la neige, et puis de devoir tracer quelque chose qui fait 6, 8 mètres de diamètre. C'est vraiment intéressant. Et puis aussi, c'est l'occasion de faire un mandala plusieurs, ce qui ne se fait pas dans l'atelier du jeudi soir pour l'instant, en tout cas. C'est vraiment intéressant de partager ça avec du monde, d'aller se balader dans un coin de nature, c'est très chouette.
Ouais, chacun participe du coup à ce mandala. Il y a aussi comme en co-création de lâcher aussi. Voilà, on veut faire des choses et puis il y a l'autre qui a d'autres idées. Voilà, on vit aussi ce processus de relation en fait, et de choses qu'on donne et puis d'autres choses que l'autre ne veut pas. Et...
Ouais, un bon exercice de lâcher prise et, de laisser aller. Ouais. C'est vrai que j'ai tendance à être souvent un petit peu directif au départ pour donner la forme. Parce que je conserve cette idée que la symétrie crée de l'harmonie ou crée quelque chose de beau. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à laisser. Quoi. Ouais. Faire confiance aux gens, à ce qu'ils ont à proposer, à ce qu'ils amènent, à leurs envies. Et chacun s'y retrouve parce que justement, il y a une possibilité d'expression pour tout le monde dans ces journées de mandala dans la nature.
Donc ça, c'est pour le land art et aussi en 3D. Ça me fait penser d'ailleurs à des mandalas 3D qui peuvent s'intégrer dans le mobilier, entre guillemets, par exemple faire des lampes avec des mandalas 3D. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu vas vers ce projet-là en tout
Oui,
cas
c'est un peu c'est un peu dans cette idée-là que enfin, il y a quelque chose à faire, en tout cas dans cette idée de faire des lampes. Ça peut aussi être simplement des pendules. C'est intéressant les mandalas en trois dimensions parce que encore une fois, on crée de l'harmonie à partir des formes géométriques. Et c'est intéressant ensuite de faire des objets qui, dans la maison, vont dégager des ondes de forme qui vont être bénéfiques. Voilà, donc on va éviter de faire des choses saillantes, on va faire des choses douces, des choses à facettes qui vont avoir une belle résonance dans l'habitation. Voilà, donc là, ça, du coup, on entre encore dans un autre domaine avec la 3 dimensions. C'est vraiment intéressant.
Et oui, c'est vrai que ça fait du bien dans nos maisons, pour la plupart, enfin majoritairement, carrées avec des formes très angulaires, d'avoir un dessin ou quelque chose en 3D qui amène un peu la rondeur. Enfin voilà, ça touche aussi un peu au feng shui. Enfin voilà, toutes ces vibrations aussi qu'on peut avoir dans la maison et qui peuvent un peu adoucir, effectivement, parce que ça a vraiment une incidence sur nous, ce qu'on peut voir.
Et ressentir consciemment ou inconsciemment.
Et bien avant de parler de l'exposition, on va s'offrir une petite pause musicale avec un de tes coups de cœur. C'est la gargote. Thank you. alors juste avant la pause musicale, donc on parlait de des différentes formes de mandala et dont les 3D. Est-ce que lors de l'exposition, donc qui aura lieu à partir du 15 février au Café des Lys à Die, est-ce qu'il y aura aussi d'autres formes du coup de mandala ou est-ce que ce sera des mandalas dessinés ou peintes?
Alors, c'est une idée intéressante. Je n'y avais pas pensé, mais... non, je pense que ça sera surtout, peut-être que je laisserai un mobile ou deux, si c'est possible, je pense qu'il y aura peut-être une possibilité pour faire ça, ouais. Mais ce sera surtout les travaux de l'atelier.
D'accord, donc c'est une exposition qui regroupera tes œuvres et celles des participants des ateliers. Ça va vibrer, ouais, au Café des Lys avec toutes ces, toutes ces productions pendant un mois, c'est
ça? Ouais, ça va peut-être faire un petit peu mal aux yeux ou un petit peu mal au crâne. ça va être vif. On va essayer de faire des compositions sympas avec des petits groupes de mandalas, des gros, des petits. Et puis justement d'équilibrer un peu pour que ça pète pas trop à la tronche.
Mais ça fait aussi du bien par ailleurs.
Ouais, ça fait du bien. Et puis ça reste une exposition, donc on n'est pas dans le salon des gens à leur mettre des mandalas. Mais ça me fait penser à un ami peintre qui fait des peintures très très vives, pleines de couleurs, très très fortes. Et puis souvent, quand je regarde ses peintures, je me dis waouh, celle-là elle est vraiment chouette, mais je la mettrai pas dans mon salon, c'est trop intense. Pour certains mandalas, donc vous verrez si vous venez, effectivement, il y a des choses très fortes qui se dégagent, d'où l'intérêt aussi, quoi, finalement.
Oui, et si, bon, c'est vrai que ça peut tout se regrouper comme ça, ça peut faire beaucoup, mais s'il y a des coups de cœur vraiment pour un mandala et que justement cette personne-là veut l'avoir absolument dans sa chambre ou son salon, ça sera possible d'acheter certaines productions?
Alors oui, je suis en train de prévoir des reproductions de certains des miens, en tout cas. Donc je m'engage juste pour moi, je ne m'engage pas pour les autres participants de l'atelier. Ce sera prévu, ouais.
D'accord. Ouais. Et ce désir, du coup, bon, je vois tout de suite l'envie de faire partager ce qu'on aime. Et sinon, quel autre désir a animé cette idée de faire cette exposition là-bas? Est-ce que c'est une idée plus des participants qui avaient vraiment envie, dans l'engouement de leur création, de montrer ce qu'ils avaient fait? Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de reconnaissance, d'aboutissement, choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est ça
Oui, j'ai eu une participante qui avait très envie d'exposer quand j'en ai parlé dans l'atelier. Voilà, après, j'ai surtout envie de communiquer, de montrer aux gens qu'est-ce qui se passe dans l'atelier, que c'est quelque chose qui vit. Voilà, donc en ce moment, à l'atelier, il y a quelques personnes qui viennent. Il n'y a pas une grosse affluence. L'année dernière, ça m'a un peu chagriné de ne pas voir beaucoup de monde parce que... j'avais envie que mon activité marche et que les gens viennent et j'avais sûrement besoin d'un peu de reconnaissance. Je me suis un peu interrogé là-dessus et puis je me suis retrouvé à faire l'atelier pour une personne, voire parfois être tout seul. Et ces moments-là, je les ai aimés et ils m'ont fait autant de bien finalement que quand il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai un peu lâché prise par rapport à la fréquentation de l'atelier pour ce qui est de la reconnaissance. Maintenant mon but c'est que les gens sachent que s'ils ont envie, il y a une permanence tous les jeudis soirs qui est assurée toute l'année, même pendant les vacances. On s'arrête au mois de juin. Et donc s'ils veulent venir, il n'y a aucun problème.
D'accord, donc les jeudis soirs à partir de 19h aux Agités, avec une participation donc de 5 euros.
C'est ça.
Avec un matériel aussi que tu donnes à disposition.
Oui.
Et sans inscription, donc c'est vraiment les gens passent, ont envie de venir à partir de 19h.
Si c'est pour quelques séances, si c'est si c'est pour une fois, pour essayer, si c'est pour 6 mois, enfin c'est
D'accord.
Voilà, c'est sans engagement.
Ok. En tout cas, toute cette petite pratique que j'ai sur les mandalas et surtout toute cette conversation, cet échange et la préparation de cette interview m'a amené vraiment à m'interroger sur la beauté. Parce que le mandala, il y a quelque chose qu'on pourrait dire de côté artistique, donc exclusivement esthétique. Mais en fait, ce côté-là de l'esthétisme, je trouve que le mandala, il en fait quelque chose de bien plus vaste et plus profond, qui est surtout lié à notre être et à la présence qu'on a en face des choses. C'est pour ça que, quand j'ai préparé cette interview, ça, il m'est venu, ces quelques mots, c'est que la beauté est une affaire de regard, mais de regard, de découverte et d'amour. Et que la beauté ne dépend pas de ce qui est en face de soi, mais elle vient d'un mouvement beaucoup plus profond. C'est une présence entièrement donnée à ce qui est. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça, quelques mots ?
C'est vrai que, pour moi, la beauté dans la beauté du mandala, c'est dur de mettre des critères de beauté sur le mandala parce que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Moi, ce que j'aime bien penser, c'est que le mandala, c'est pas que... Je ne sais plus exactement quels étaient tes mots. En fait, tu disais qu'il y avait quelque chose qui était lié à l'esthétique.
Parce que l'esthétisme, on entend souvent beauté, mais qui est très subjective. Ouais. Et qu'en fait, là, c'est vraiment un retournement de ça. Ça dépend pas du tout ni de ce qui est en face et ni de nos croyances, de nos références, de quelque chose de réfléchi, mais que c'est juste que quand on a vraiment le cœur assez ouvert pour vraiment juste être dans une attitude de découverte et juste de regard et de présence qui est complètement dédiée à ce qui est là, peu importe les formes, ça bouscule en fait toutes nos idées.
Ouais.
C'est en fait juste, on s'ouvre et on découvre, on va vers, au lieu que la chose vienne à nous et soit analysée, décryptée. Là, c'est vraiment, c'est plutôt même une rencontre, c'est que les deux vont se rejoindre. Et c'est plus une rencontre, en fait. La beauté, ce serait ça. C'est une histoire de rencontre.
Ouais, c'est vrai que... après, c'est ce qui est intéressant dans le mandala, finalement, et ce qui est le plus important, parce que c'est là où on passe le plus de temps, c'est le cheminement. C'est vraiment intéressant, justement, cette position de vouloir faire un truc esthétique et de vouloir être satisfait de ce qu'on fait, parce que ce qui est important, finalement, c'est le temps qu'on va y passer, c'est les émotions qui vont nous traverser pendant qu'on le fait. C'est les découvertes des formes, on s'attendait à ce qu'il y ait cette forme-là, puis en fait, pof, il y a une autre forme qui apparaît, on gomme, et puis là, tiens, il y a une courbe que je n'avais pas vue, ah super, là il y a quelque chose qui apparaît spontanément, et là, avec les couleurs, ça va être un peu la même chose. C'est vraiment dans le processus que c'est trépidant, c'est les couleurs qui s'agencent au fur et à mesure qu'on fait des tours, moi j'appelle ça faire des tours, c'est-à-dire remplir une même forme, la colorier, et... 5 ou 6 fois ou 7 fois selon le nombre de branches de l'étoile qui m'a fait débuter le mandala. Faire des tours, on finit son tour et puis, les couleurs se sont agencées d'une telle manière ou d'une autre manière et là ça fait ressortir différentes choses. Et puis on passe du temps à réfléchir, on passe du temps à s'absorber dedans, à le regarder, à être content, à se demander quelle couleur on va mettre. Enfin, il y a vraiment tout une histoire de processus c'est ça la plus importante en fait. C'est ça le mandala en fait, c'est pas ce qu'on va montrer pendant l'exposition, on va essayer de faire quelque chose d'esthétique, d'agréable à regarder, mais finalement, y a vraiment un boulot de lâcher prise par rapport à ce qu'on veut rendre dans le mandala, parce que ce qui est important c'est le processus. Et j'ai notamment une personne qui venait, Odile, qui a eu une espèce de frénésie du mandala pendant quelques mois qu'elle participait à l'atelier. L'hiver, pas cet hiver-là, mais l'hiver d'avant. Et elle a produit énormément de mandala. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, elle en faisait tellement qu'elle était affranchie du but esthétique. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se dire que... En fait, le mandala, c'est un cheminement. C'est pas... Si on poursuit un but tout le temps... On est dans la projection, on est dans le futur, on n'est pas dans l'instant présent. Et bon, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe et les petites satisfactions. Là, j'ai terminé ça. Là, j'ai trouvé une belle couleur. Là, cette forme. Ou alors l'insatisfaction aussi. Ouais. Pendant longtemps, en fait, quand je dessinais un mandala, ensuite, je l'offrais ou alors je le laissais dans le lieu dans lequel j'étais. En fait, je m'en débarrassais un peu à la manière des Tibétains qui dessinent leur mandala dans la grande chambre des vents pendant des heures et des heures, très, très minutieusement, et puis qui ensuite ouvrent les portes et il y a les vents qui emportent leur production, super impressionnant. Donc j'avais envie de ne pas collectionner, de ne pas me pavaner ou être
Oui.
fier de ce que j'avais fait. Et puis bah, finalement, je trouve ça intéressant d'avoir des retours. Voilà, c'est surtout l'intention de cette exposition, c'est de montrer le travail, plus que le résultat.
Ouais,
Même
oui.
si, tu vois ce que je veux dire,
C'est
quoi,
ça.
c'est...
Ouais.
Ouais.
Et oui, parce que c'est vrai qu'on peut voir aussi des. Moi, j'ai juste vu ça dans quelques films, mais des personnes passer mais des jours et des jours, peut-être même des semaines, avec des grains de sable, effectivement, à faire le mandala. Et tout ça, voilà, va être balayé. Donc là, on sent vraiment qu'en fait, ce qui importe, c'est vraiment ce qui se joue pendant la création, notamment par des choses en nature. Ça prend vraiment son sens que c'est pas là le propos, quoi.
Ouais,
C'est que c'est vraiment le chemin, quoi.
c'est
Ouais.
ça, ouais. Peut-être ça aurait pu être intéressant de pouvoir chiffrer le nombre d'heures
Ouais.
qu'ont été passées sur chaque mandala pour que les gens se rendent compte.
En nombre de grains de sable, d'ailleurs, ce serait magnifique. Un grand sablier. Ouais. Ok. Bon, et eh bien écoute, merci.
Avec plaisir.
Alors, une petite récapitulation de notre conversation et des informations. Il y aura une exposition à partir du 15 février au soir au Café des Lys rue Camille Buffardel. Et les ateliers Mandala, donc vous pouvez retrouver Jean-Claude aux agités du local tous les jeudis à partir de 19h rue Émile Laurence. Participation de 5 euros. Tout le matériel est fourni. Ou si vous avez aussi des choses, des encres ou des couleurs aussi à partager, ça peut être aussi très agréable. Sans inscription, est-ce que tu peux nous dire ton adresse mail ou ton numéro de téléphone?
Oui, alors je vous laisse mon adresse mail, c'est JISS, @lavache, tout attaché, .com. Et j'ai donc un numéro de téléphone où je suis joignable facilement, le 09 53 38 78 95.
Et puis vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur la page d'accueil de l'interview sur rdiwa.fr. Eh bien, belle fin de journée,
Belle fin de journée à
Jean-Claude.
vous, à toi.
Et puis à plus tard. Et merci pour votre écoute, pour votre présence et apporter des couleurs à votre vie.